This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 275 du podcast Jeune Actu en direct un peu en avance en VOD à l'horaire habituel. Bonjour Grégory Richard.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Nous sommes réunis donc pour la preview de la dernière semaine de saison régulière avec notre partenaire Unibet, votre détour pour les paris en ligne sur la NFL. Vous avez le programme, l'habitude pardon, du programme du jeudi, c'est l'affiche de la semaine, les pronostics et les meilleures cotes de la semaine. On l'a dit, dernière semaine de saison régulière, donc dernière fois qu'on a 16 matchs à traiter. On va donc commencer tout de suite par... j'ai oublié. Bonjour Camille Sarabène. Je l'oublie trop souvent le jeudi parce que je suis dans le flow de la vidéo et tout ça. Et puis là, comme vous l'avez vu, je suis un petit peu froid, j'ai ma petite écharpe, je suis un peu... Donc il ne faut pas que je me laisse aller et que j'oublie personne. Donc je disais, on commence par les affiches de la semaine. Jingle Camille, s'il te plaît. L'affiche de la semaine, elle est très simple. Elle oppose les Titans aux Colts avec un enjeu très très simple. Celui qui gagne va en playoff. Donc, ce sera le match dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. La NFL l'a mis évidemment en valeur, c'est le prime time américain, puisque c'est la seule affiche où il y a une opposition comme ça directe pour les playoffs. En fait, c'est déjà un match de playoff. Ouais. On peut dire ça comme ça. Une énorme inconnue au moment où on enregistre cette émission. Marcus Mariota est touché au coude, problème nerveux. A priori, je ne sais plus s'ils ont précisé ou pas si c'est la continuité de celui qu'il avait déjà eu au début de l'année, où il avait du mal à serrer correctement le ballon, en fait, parce qu'il avait le bout des doigts engourdi. En tout cas, problème nerveux, encore une fois. On ne sait pas s'il va jouer au moment de l'enregistrement. Je vais poser une question un peu provocante, mais je n'ai pas peur des mots. Est-ce que ça change quelque chose?
Oh, je ne sais pas du tout venir cette question.
Est-ce que ça change quelque chose entre Marcus Mariota et Blaine Gabbert?
Je pense que ça change quelque chose, ne serait-ce que par la mobilité malgré tout qu'apporte Marcus Mariota. Alors certains diront en effet que Blaine Gabbert n'a pas forcément coûté le match aux Titans lors du match contre Washington. Il a notamment contribué au dernier drive qui amène notamment le touchdown et sa passe à destination de Michael Pruitt. Après, c'est sûr que dans les faits, est-ce qu'il a la capacité de répéter ce genre de performance? Ça, c'est déjà un peu plus incertain. Et c'est vrai que contre une défense des Colts qui, on l'a vu contre les Giants, est également capable d'élever son niveau de jeu, ça peut être pas mal quand même d'avoir un quarterback qui peut se dégager de la pression. Après, je suis d'accord avec toi, c'est sûr que ça reste un sérieux handicap si Mariota joue ce match en étant diminué, surtout, surtout au niveau de la main, du bras. Ce qui est le plus idéal pour vraiment mettre en difficulté cette défense d'Indianapolis et la prendre à revers, on dira, dans son dos.
Après, l'atout principal de Tennessee, ça va rester le physique, le jeu au sol, le physique en défense.
Si on se demande quelles sont les conséquences par rapport à l'absence de Marcus Mariota, on peut aussi relativiser en disant que la grosse star malgré tout depuis la bye week, c'est aussi et surtout Derrick Henry, qui a vraiment contribué à remettre cette équipe des Titans dans le bon sens et qui, sur des succès vraiment importants, je pense notamment au match des Jaguars, a porté son équipe et son attaque à bout de bras. Et puis il ne faut pas non plus oublier qu'on a affaire à une défense qui, quand elle met les barbelés, elle ne fait pas semblant. Il y a beaucoup de matchs où ils prennent moins de 17 points, enfin même des matchs où ils prennent moins de 10 points sur l'ensemble de la partie. Donc il y a quand même possibilité. On a vu qu'Indianapolis, par exemple, avait souffert à Jacksonville. Si cette défense de Tennessee est disciplinée, elle peut limiter les erreurs de, de l'attaque comme elle a déjà fait cette saison.
Alors les Colts sont quand même favoris. Au match aller, ils ont gagné 38 à 10. Il n'y avait aucun sac pour Tennessee. Mais potentielle absence de Ryan Kelly, si je ne dis pas de bêtises, qui était un peu touché dans le dernier match, qui pourrait quand même être le talon d'Achille parce que cette ligne a plutôt été bonne cette saison. Il y a eu une longue série, je crois que c'était 5 matchs sans sac pour Andrew Luck. Mais Ryan Kelly est quand même un des hommes de base. Donc ça pourrait. Alors, à l'inverse, il y a aussi l'absence de Jurrell Casey en face.
C'est ce que j'allais te dire. Alors, c'est vrai que Ryan Kelly, c'est un élément, on dira, solide de cette ligne offensive. C'était pas le meilleur joueur de la O-line, mais ça reste quand même un joueur qui peut en effet répondre aux défis physiques de la ligne offensive, de la ligne défensive, pardon, des Titans. Mais c'est vrai qu'à mon sens, l'absence de Jurrell Casey, elle est beaucoup plus préjudiciable à Tennessee que peut être paradoxalement l'absence de Marcus Mariota. Et sans le vrai leader défensif de cette équipe de Nashville, peut-être avec Wesley Woodyard, ça peut quand même être quelque chose à surveiller face en effet à une ligne offensive des Colts qui globalement, malgré quelques petits trous d'air sur un ou deux matchs dans cette deuxième partie de saison, a quand même été excellente, tu le soulignais notamment avec cette bonne série.
Est-ce que, alors déjà le bilan d'Andrew Luck, c'est 10 victoires, 0 défaites contre les Titans, quand même à prendre en compte. Au match aller, donc c'était à ce match aller d'ailleurs que Mariota s'était blessé, il était sorti en cours de rencontre. Comment les Colts peuvent perdre ce match sachant qu'ils ont la 7ème attaque et que les Titans sont la 26ème attaque et que les Titans sont la 7ème défense mais que les Colts sont 11ème, donc sur le papier il y a quand même beaucoup de choses qui vont en faveur d'Indianapolis si on rajoute l'absence de Jurrell Casey et la potentielle absence de Marcus Mariota en plus.
On est d'accord. Alors je vais peut-être aller dans le côté mystique, mais il ne faut pas oublier que cette équipe de Tennessee plus d'une fois elle a déjoué les pronostics cette saison sur des matchs où on les attendait pas, justement où on les pensait clairement outsiders de la rencontre.
Ça aurait pu être plus mystique, j'ai eu peur, je croyais que tu allais me dire n'oublie pas que dimanche c'est la 12ème lune et la 12ème lune est très favorable aux gens de Nashville.
Voilà. C'est, si on se rappelle par exemple de la réception de New England où on leur donnait quand même peu de chance et où ils ont clairement dominé les Patriots sur ce match-là, il y a des rencontres où Tennessee est capable de se sublimer. Et je prenais l'exemple en effet du Jacksonville-Indianapolis il y a quelques semaines où là encore les Colts étaient extrêmement favoris. On a vu que contre les Giants, ils ont eu énormément de difficultés à l'allumage. Est-ce que Indianapolis est capable d'assumer ce statut de favori sur ce match-là avec les circonstances qu'on sait et les possibles absences donc des joueurs qu'on a évoqués du côté des Titans? Ça va être à surveiller, mais si l'attaque d'Indianapolis commence à être bien bloquée, ça peut aussi rapidement se compliquer en effet, parce que le duel entre Derrick Henry et Darius Leonard, on va dire pour le résumer grossièrement, va prendre un peu plus d'importance avec potentiellement un Henry qui peut permettre à son équipe de l'emporter.
Les trois bonnes raisons, on va passer aux trois bonnes raisons. La première, elle est très très simple, on en a parlé, c'est gagner ou rentrer à la maison. Évidemment, c'est toujours excitant quand même de voir un match comme celui-là.
Est-ce que tu peux me permettre juste la précision, c'est à signaler, les deux équipes peuvent être éliminées également des playoffs.
Oui, alors si elles font match nul.
Si elles font match nul, Pittsburgh s'impose.
Pittsburgh gagne, en effet. Gagner ou rentrer à la maison. Deuxième, évidemment, Mariota ou pas. Alors, parce qu'il y a l'absence potentielle de Marcus Mariota et parce que ça va quand même être un... Je ne vais pas dire un indicateur, mais il va falloir savoir ce qu'on fait de Marcus Mariota pour les années à venir aussi. Donc, s'ils sortaient un gros match là, qu'ils les qualifient en play-off, qu'ils allaient un peu plus loin, ça les aiderait probablement à y voir un peu plus clair aussi que s'il est blessé, qu'il ne joue pas, que Blaine Gabbert joue, qu'ils perdent et qu'ils vont pas en play-off.
C'est ça. Je ne sais pas dans quel état il était à Kansas City l'année dernière, mais il était un petit peu sorti de nulle part également, alors que justement, on se posait déjà des questions sur son impact. Il avait eu un peu de réussite avec sa réception, mais en effet, ça peut être également un bon indicateur pour un match qui est considéré comme presque un match de play-off pour Tennessee.
Et puis, la troisième, c'est le potentiel comeback. Je parlais de comeback, c'était Andrew Luck, évidemment, qui reviendrait en play-off et qui retrouverait un petit peu le chemin de l'élu qui était le sien, puisqu'il avait quand même atteint la finale de conférence assez rapidement. Donc,
C'est la dernière campagne d'école, je crois, où ils vont en finale contre les Pats.
Ouais, c'est possible. Après, il y a les blessures qui s'enchaînent et c'est là. Le pronostic.
Indianapolis quand même pour moi.
Indianapolis, Indianapolis aussi. Sur cette affiche de la semaine, on passe au pronostic. Les pronostics, dernière semaine. Alors, je triche, j'ai pas de fiche papier, j'ai essayé de tout garder sur l'ordinateur cette semaine. Ben, c'était pour préserver l'environnement, pas de marbre et tout ça. Donc, les scores de la semaine dernière, je viens de recevoir le fichier, je remercie Joachim encore une fois. Grégory 12, Raoul 12, Raphaël 13 et moi-même 11. L'écart se creuse donc encore pour moi.
Merci encore aux Jets.
Voilà. les Jets, c'est toi qui étais pas content. T'es le seul à les avoir. Là, du coup, j'ai tout le détail sous les yeux. Tu perds un point sur les Jets, moi je perds un point sur les Texans. On a tous pronostiqué les Dolphins contre les Jaguars. Je perds un point sur les Chiefs, c'est vrai. Vous aviez tous bien vu Seattle. Bon, bah, tu vois, comme quoi, ça me... Je sais pas, c'était quand même le meilleur bilan. Bon, voilà.
Ah non, mais c'était un des six.
139 pour moi au total, 150 pour Raphaël, 149 pour Raoul. Donc j'ai 10 points de retard sur le premier. Bon, c'est dur, là, quand même. Même entre quand les playoffs, ça va être compliqué, quand même. Et puis 156 pour toi, Grégory. Donc tu gardes quand même 6 points d'avance sur le deuxième. Même à 2 points par match en playoff, t'as un peu de marge
pour
voir
venir. J'ai annoncé la couleur à Raphaël, je vais le pousser à la faute. Et à Raoul aussi, ils sont pas loin.
Allez, coup d'envoi, oui c'est vrai, du coup ça fait 7 sur Raoul. Coup d'envoi dimanche à 19h, donc que des matchs le dimanche cette semaine, pas de jeudi, pas de samedi, tout est dimanche, pas de lundi non plus. Buffalo Bills, 5 victoires, 10 défaites, Dolphins, 7 victoires, 8 défaites, match sans enjeu avec deux équipes de la NFC Est. Là on est pour les places de la draft.
Ouais, alors, le principal enjeu c'est peut-être de voir la prestation de Miami. Alors aux dernières nouvelles...
Et de Josh Allen.
Oui, alors Josh Allen, oui, mais... A priori, pour Buffalo, ça a quand même peu d'impact. Alors, par contre, pour Miami, je crois qu'ils ont renvoyé Mike Tannenbaum, qui était un de leurs dirigeants aujourd'hui. Ouais,
ah tout bah, à fait. J'ai loupé l'info en venant.
Et, alors, il y a des rumeurs comme quoi Adam Gase pourrait quand même être conservé, mais je pense que c'est aussi conditionné au rendement des Dolphins à Buffalo. Et on a vu que Miami a eu beaucoup de problèmes contre la défense des Jaguars. Là, la défense des Bills, c'est quand même solide. Donc, j'y vais avec Miami quand même. Mais voilà, ça va être un match à surveiller de près, je pense, ne serait-ce que pour savoir ce qui va advenir d'Adam Gase et de son équipe.
Je vais dire Miami aussi, parce qu'on l'a dit pendant l'émission, notamment mardi, que c'est une équipe moyenne, mais du coup, c'est une équipe moyenne un peu plus homogène que Buffalo, même si Buffalo a une très grosse défense quand même, donc il va falloir faire attention
à ça. Buffalo, il y a beaucoup de zones d'ombre. LeSean McCoy, on disait, c'est un petit peu problématique en interne. Ouais, ouais. Matt Milano, fin de saison par exemple, donc c'est vrai que c'est une équipe qui peut aussi être un peu roue libre.
On va le dire, hein, c'est une semaine, étrange ou compliqué pour les pronostics parce qu'en plus il y a beaucoup d'équipes qui n'ayant plus rien à jouer ont mis pas mal de joueurs sur la liste des blessés, enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se passent. Tampa Bay Buccaneers, 5 victoires 10 défaites, Falcons 6 victoires 9 défaites, pareil c'est sans enjeu et moi je vais te dire Tampa.
Je sais pas, moi je vais dire Tampa aussi.
Ah tu reviens à la première
Bah là c'est un match à l'extérieur. Tampa est capable du meilleur comme du pire en étant un petit peu relâché, ils ont pas fait de mauvaise prestation à Dallas. C'est typiquement un match que peuvent gagner les Bucks et j'oublie pas les errements défensifs des Falcons quand même, malgré le retour de Dion Jones.
Tu reviens à la superstition pour la dernière semaine.
Ouais.
Ouais. Bon.
Quand c'est trop gros, je joue quand même Atlanta, mais ouais, là je joue les Bucks.
Moi je vais dire Tampa parce que je vois le bon match de Jameis Winston pour la fin de la saison. Tu vois, qui va...
la re-signature derrière. C'est ça. La prolongation.
C'est ça. Giants, 5 victoires, 10 défaites. Cowboys, 9 victoires, 6 défaites. Alors les Cowboys sont en playoff, mais il n'y a pas d'enjeu dans ce match-là non plus parce qu'ils sont bloqués à la 4e place de la conférence NFC, quoi qu'il arrive. Victoire ou défaite ou nul ou ce qu'on veut, ils ne bougeront pas. Donc Jerry Jones, là aussi on parlait de difficulté de pronostiquer. Pour l'instant officiellement Jerry Jones dit on va jouer à fond, tout ça. Donc sur le papier, voilà, je vais donner Dallas parce que c'est une équipe qui est quand même plus homogène et surtout plus régulière que New York. Mais en espérant que d'ici à ce qu'on ait parlé, il n'y ait pas la moitié de l'équipe au repos, quoi.
C'est un peu ça. Après, on a quand même vu qu'il y avait malgré tout des remplaçants qui étaient capables de prendre la relève. Je parle notamment défensivement du côté de Dallas parce que selon moi, une des clés, même si la défense des Giants va un petit peu mieux, la clé, ça reste quand même selon moi l'attaque. Si l'attaque arrive à carburer, ça peut fonctionner. C'est qu'on Barkley peut quand même, selon moi, être un petit peu freiné. Et c'est pour ça que oui, je suis en effet allé vers Dallas sur ce match-là. Mais oui, il faudra suivre exactement les forces en présence sur cette rencontre.
Les Saints, 13 victoires de défaite. Les Panthers, 6 victoires, 9 défaites. Il n'y a pas d'enjeu non plus, parce que si je ne dis pas de bêtises, les Saints sont bloqués à la première place de la NFC aussi. Là, il n'y a pas eu d'annonce encore hein, sur remplaçant par remplaçant. Je sais que les Saints, l'année où ils gagnent le Super Bowl, avait mis au repos une partie ou sur la deuxième mi-temps ou quelque chose comme
c'est
ça en fin de saison.
Donc ça a remonté maintenant.
Ouais,
mais pas impossible
pour que Sean Payton laisse un peu de repos. Après en face c'est Tyler Heinicke, il n'y a plus Cam Newton, il y a beaucoup de blessés aussi.
J'allais dire Taysom Hill, non c'était Teddy Bridgewater.
On peut avoir
le premier match de Teddy Bridgewater.
Et de l'autre côté par contre Tyler Heinicke, je crois qu'il était un peu blessé aussi après l'autre match.
Oui c'était Kyle Allen éventuellement.
Donc voilà, il y a encore le remplaçant du remplaçant. Donc je vais dire les Saints sur la base de tout ce qu'on a vu des dynamiques etc. en espérant qu'il n'y ait pas trop de turnover et que ça ne rende pas un match du coup très fou et très fouillis.
Ouais, ouais. Bon, ils ont quand même perdu à domicile contre Atlanta, donc même avec les Saints qui font tourner, en effet, je peux relativiser son impact en tant que starter, mais voilà, c'est quand même un quarterback qui peut faire des différences, donc largement. A priori,
même s'ils font débuter Bridgewater, ils ont le meilleur quarterback sur le terrain.
Oui, je pense, oui, on est d'accord. Donc j'irai quand même les Saints.
Allez, les Saints pour tout le monde. Patriots, 10 victoires, 5 défaites. Jets, 4 victoires, 11 défaites. Les Patriots jouent pour une semaine de repos, eux, s'ils gagnent. Ça va pas être cadeau parce que les Jets ont tendance quand même à s'accrocher en les fins de match et Sam Darnold montre des belles choses sur les derniers matchs. Ça paraît clair, ça finit pas toujours, il n'y a pas de victoire au bout, mais il y a parfois des belles choses face à des Patriots qui ne sont pas d'une régularité folle en attaque, dans les airs, parce qu'il y a gros jeu au sol.
Ouais, alors après, je sais pas. Les Patriots, défensivement, me paraissent quand même un peu meilleur contre la passe que contre la course. Certains me diront que c'est pas très dur vu ce qu'ils montrent cette saison. Et c'est vrai que vu ce qu'on voit du jeu au sol des Jets depuis quelques semaines, ça peut quand même poser problème à Sam Darnold. Les pattes sont de quoi défensivement provoquer quelques turnovers avec des Stephon Gilmore, des Duran Harmon, etc. Donc il faut espérer pour les Pats qu'il n'y ait pas de nouveau des erreurs offensivement comme ça a pu être le cas contre Buffalo, mais je pense pas que New England ait non plus besoin de marquer 46 points pour battre cette équipe des Jets, donc j'irai quand même avec New England.
New England pour moi aussi. Texans, 10 victoires, 5 défaites. Jaguars, 5 victoires, 10 défaites. Victoire et division, pardon, AFC Sud dans la poche des Texans. Et donc, ce serait... Alors, ça dépendrait du résultat des Patriots. Non. Si, c'est ça.
Si les Patriots perdent,
les Texans passent devant et ont une semaine de repos. Ça me paraît quand même, sur les dynamiques, là encore, plutôt à l'avantage de Houston.
Save big money on your outdoor project now at Menards. We have everything you need to keep your outdoor power equipment running smooth, so you can keep that lawn in tip-top shape or enjoy some time on your boat. Right now, all FVP, lawn and garden, and marine batteries are on sale through May 5th. Check out our entire selection of FVP batteries today and view our weekly flyer on Menards.com for more great deals. Save big money at Menards.
Même s'il y a grosse défense des Jaguars, hein, sur les dernières semaines, ils se battent. Ils font le boulot.
Oui,
mais
il y a bonne
pas
défense. Il y a bonne défense quand même de Houston aussi. Il y a de quoi freiner suffisamment Leonard Fournette. Même si je trouve que son impact n'est pas extraordinaire non plus depuis son retour de blessure.
Oui.
Donc je ne sais pas si c'est Scott Milanovic, le nouveau coordinateur, qui a un petit peu de mal à l'utiliser ou si il n'est pas forcément revenu à 100%, ça va voir. Mais oui, honnêtement, j'irais plutôt vers Houston sur ce match-là, surtout avec une O-line de Jacksonville qui reste quand même en convalescence.
Houston également. Green Bay, 6 victoires, 8 défaites, 1 nul. Détroit, 5 victoires, 10 défaites. Pas d'enjeu là-dedans non plus, à part pour Aaron Rodgers de terminer bien la saison. Il aime bien terminer bien les saisons contre Détroit, donc
oui.
Je vais plutôt dire Green Bay.
Oui, j'aurais tendance à te rejoindre. C'est sûr que sur ce match-là, franchement, là, il y a vraiment un enjeu extrêmement relatif. Je pense que la défense aura de quoi mettre à mal Matthew Stafford et permettre à Aaron Rodgers de remporter la rencontre assez facilement pour les Packers.
Coup d'envoi dimanche à 22h25. Washington Redskins, 7 victoires, 8 défaites. Les Eagles, 8 victoires, 7 défaites. Pour rester en vie du côté de Philadelphie, il faut gagner et espérer une défaite des Vikings pour aller en playoff. Toujours vivant, toujours debout, toujours la banane. Les Eagles sont donc toujours là. A priori, contre une équipe de Washington qui est quand même relativement lambeau sur le plan physique, infirmerie, etc. Philadelphie a quand même une bonne chance de gagner ce match. Donc, sur le cœur du champion, tu parlais de mystique tout à l'heure. Je veux dire Philadelphie.
Bah, je te dis fortement Philadelphie aussi. Tu as évoqué les différentes dynamiques. Et voilà, avec Nick Foles qui reste notamment sur une grosse prestation contre Houston. Là, contre Washington, où en interne, c'est quand même un peu confus, notamment avec le départ forcé de Didier Ossweringer.
Oui, récupéré par les Cardinals. Hein.
Voilà. Donc, je ne suis pas sûr que tous les joueurs des Redskins soient focalisés à 100% sur ce match, donc Eagles pour moi.
Beaucoup de matchs à 22h hein, d'ailleurs, je note pour ceux qui m'ont regardé. Broncos, 6 victoires, 8 défaites. Chargers, 11 victoires, 4 défaites. Les Chargers qui espèrent toujours la division et doubler Kansas City en haut de la conférence, si jamais ils gagnent et Kansas City perd. ça me paraît être un match quand même à la portée de Los Angeles face à des Broncos qui... Alors les Broncos, ils jouent pour leur coach, hein, a priori, même si ça ouais. semble plutôt très très mal engagé déjà pour lui.
J'ai l'impression qu'ils jouent beaucoup contre leur coach surtout. Mais juste une petite coquille, je crois que c'est 6-9 pour les Broncos.
Par rapport autant à ce qu'on voit
sur l'année d'armée, c'est pas très grave.
Je vais pas vous mentir, j'avais commencé à préparer l'émission avant
le
match.
C'est pas très dramatique non plus, parce que voilà, cette équipe des Broncos, qu'on pensait un temps en course pour les playoffs, elle a quand même... très sérieusement lâché du lest, et là j'ai peu d'espoir pour l'avenir de Vance Joseph du côté du Colorado, donc je pense que Denver peut enquiquiner cette équipe des Chargers. Ils ont gagné à Los Angeles au match aller,
sachant qu'il n'y a plus Philippe Lindsay, hein, qui a le poignet en vrac.
En plus, je pense que les Chargers vont gagner, mais là encore je serais pas étonné, parce que les Chargers jouent plus rien, je crois.
Les Chargers, si peuvent passer devant Kansas City. Ils sont tous les deux à 11-4.
Ah oui, c'est vrai.
Donc si Kansas City perd, on va en parler juste après.
Bon, bah écoute, Chargers.
Donc Chargers aussi. Kansas City 11-4, Raiders 3-12. Donc c'est pour la tête de la NFC, de l'AFC pardon, et de la division AFC West. Si les Chiefs gagnent, tout ça, c'est pour eux.
Je vais t'embêter, mais c'est 4-11, je crois, pour un club. T'as dit 3-12.
Ah bah oui, parce qu'ils ont gagné. Oh. Bon,
tu vas fâcher les fans des Raiders. Excuse-moi.
Donc 11-4 et 4-11. Ouais, Kansas City contre Oakland, qui est en plein renouveau, hein, après la victoire de lundi soir.
Ça va beaucoup mieux, en tout cas, du côté de cette équipe des Raiders. On a vu notamment un Doug Martin assez intéressant lundi face à Denver. Donc ça va être à...
Est-ce qu'ils sont favoris pour le Super Bowl de l'an prochain?
J'avais peut-être pas jusque-là, mais faut voir. Non, honnêtement, cette équipe d'Oakland, certes, ça va mieux, mais il y a quand même des match-ups sur lesquels ça reste compliqué. Je pense que la O-line va peut-être avoir du mal, notamment contre les pass rushers de Kansas City. Et bon, ça va être quand même très très compliqué, selon moi, d'arrêter efficacement Patrick Mahomes. S'il commence enfin à avoir un jeu au sol, enfin, ils arrivent à se relever, on dira, au niveau du jeu au sol, au vu de la bonne prestation de Damien Williams contre les Seahawks. Donc Kansas City, ça me paraît quand même assez logique.
Kansas City aussi, Vikings 8 victoires, 6 défaites, 1 nul. Chicago Bears 11 victoires, 4 défaites. Ça joue pour les playoffs du côté de Minnesota. Une victoire et ils sont en playoffs. Chicago a un petit enjeu quand même dans ce match, puisqu'ils jouent pour la deuxième place de la conférence. Si les Rams perdent et que les Bears gagnent, les Bears passent deuxième de la conférence et donc auraient une semaine de repos. Ceci étant dit, Minnesota donc joue sa tête, et au passage, si les Eagles gagnent, vu qu'on a pronostiqué tous les deux les Eagles pourraient passer les Vikings, on l'a dit. Ça va être compliqué, ça risque d'être défensif quand même ce match. On a deux belles défenses, Vikings contre Bears. Au prono, je vais dire Vikings, parce qu'il y a le plus d'enjeux, parce qu'ils ont des armes offensives, parce que ça n'a pas toujours été net en attaque du côté de Chicago. Sur ce match-là, peut-être que ça peut passer.
Honnêtement, moi je serais curieux de savoir exactement ce qui va être décidé par Matt Nagy, parce qu'on l'a dit et répété, Mitch Trubisky, il a des qualités, il a des défauts. Mais il va quand même affronter une équipe des Vikings qui défensivement est assez costaud. Est-ce que c'est une bonne idée d'éventuellement semer le doute s'il vient à passer complètement à côté de son match? Surtout que les deux équipes peuvent très bien se retrouver au premier tour des playoffs à Chicago à ce moment-là. Est-ce que c'est vraiment la bonne idée? Je ne sais pas s'il va pas avoir dans l'idée de tourner un petit peu, de faire tourner un petit peu son effectif, de donner un peu de temps à Chase Daniel, à Taequann Mizzle sur le jeu au sol. Ce sera à surveiller. C'est pour ça qu'il faut voir. Après, cette équipe de cette attaque de Minnesota, notamment, il faut toujours la tester. Ils ont montré de bonnes choses contre Miami et Détroit, mais comparé à des run-stop extraordinaires. Là, Dalvin Cook et Latavius Murray vont avoir un vrai run-stop en face. Et va falloir vraiment montrer ce que vaudra éventuellement cette équipe des Vikings en janvier. Et c'est peut-être là que va être la clé du match. Après, en effet, il y a plus d'intérêt pour Minnesota, donc j'irai avec les Vikings.
Ravens, 9 victoires, 6 défaites. Browns, 7 victoires, 7 défaites, 1 nul. C'est pour la division du côté de Baltimore, qui est repassé devant Pittsburgh la semaine dernière. Ça va être un match intéressant, parce que les Browns, ils sont quand même pas mal pour jouer les troubles faits. Ils sont sur une bonne série de fin de saison. Ils sont plutôt chauds. Mm-hmm. Ils sont bons en attaque. Ils ont un Baker Mayfield qui a deux passes du record pour un touchdown. Deux passes de touchdown du record sur une saison rookie. Je vais y arriver, qui est détenu par Peyton Manning. Donc, ils sont plutôt pas mal derrière les Ravens sur les armes maintenant qu'on connaît. C'est hyper identifié. Gros jeu au sol, grosse défense. Et un Lamar Jackson qui progresse et qui sert proprement ce qu'il y a à faire. Est-ce que ça passe pour Baltimore? Est-ce que ça va en playoff?
Honnêtement, les Browns sont, tu le disais, sont en très bonne forme et la ligne offensive est solide. Là, ils vont quand même avoir du costaud en face. Hein, parce que de ce qu'on a vu à Kansas City, à Los Angeles, si Baltimore met autant de pression sur Baker Mayfield, ça va être très très long. Et je doute que sur la distance, Cleveland soit capable de répondre efficacement. Voilà, si Lamar Jackson limite les erreurs comme il le fait très très bien ces dernières semaines et apporte sa pierre à l'édifice, on dirait, au niveau du jeu au sol, j'y vais sur les Ravens.
Et ben, je vais dire les Browns. Déjà, un, pour essayer de récupérer un point.
Tu peux.
Et deux, spoiler de division. Bam, là, le spoiler de fin de saison.
Il y a un petit traumatisme quand même du côté de Baltimore, parce que la défaite l'année dernière à domicile contre Cincinnati, personne ne la voyait venir.
C'est vrai.
Donc là, s'il y a défaite, ils peuvent être éliminés. Cette AFC North, c'est un peu tout ou rien. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le titre de division, mais il peut y avoir aussi sortie des playoffs. Donc
je t'ai dit le spoiler.
Cleveland. Ok, pourquoi pas.
Rams, 12 victoires, 3 défaites. 49ers, 4 victoires, 11 défaites. C'est pour l'avantage du terrain en NFC. Pas l'avantage du terrain, mais sur la première semaine, pas pour tous les playoffs. Enfin, sur le,
voilà,
jusqu'à la finale de conf.
Déjà, c'est pour la bye week.
Pour la bye week, voilà, merci. C'est ça, je vais y arriver. Donc, c'était pour la bye week, les Rams. Donc, contre les 49ers, ça paraît quand même plutôt jouable. Une équipe des 49ers qui est accrocheuse, mais qui a quand même moins d'armes que les Rams. À noter, par contre, que Todd Gurley pourrait être au LDC au repos une semaine de plus.
Ouais,
donc, si Anderson avait fait le taf.
On va redonner 150 yards à CJ Anderson. Non, voilà, ça, seul San Francisco, je pense. Malgré le départ forcé de Robin Foster, a quand même des arguments pour limiter un peu ce jeu au sol. Après, c'est sûr que sur ce match-là, je pense que le principal intérêt, au-delà de la bye week, c'est pour cette équipe de Los Angeles se relancer un petit peu. On les avait un petit peu en difficulté pendant quelques semaines. Ils se sont relancés à Arizona. Là, voilà, ça fait partie de ce calendrier un poil généreux avant les phases finales pour permettre à Jared Goff et à l'ensemble de l'attaque, notamment, de se remettre un petit peu d'équerre. Donc, les Rams pour moi.
Les Rams pour tout le monde. Steelers, 8 victoires, 6 défaites, 1 nul. Bengals, 6 victoires, 9 défaites. Les Steelers doivent donc gagner et espérer une défaite des Ravens ou un match nul entre les Colts et les Titans. Ça paraît plutôt faisable face à une équipe des Bengals qui est quand même plutôt dans le genre décimé aussi, qui joue avec Jeff Driscoll au poste de quarterback et Joe Mixon comme principal atout en fait maintenant.
Oui, et puis honnêtement, sur une dernière semaine où les Steelers jouent clairement leur peau en playoff et où ils doivent gagner pour y croire, déjà sur le principe, je t'aurais dit les Steelers, là ils vont jouer les Bengals et on sait que ils sont souvent très copains les deux quand ils s'affrontent. Il y a souvent quelques petites boîtes ici et là.
Vrai.
Je pense que du côté de Pittsburgh, on va clairement se dire non seulement il ne faut pas perdre ce match, et en plus il faut mettre une petite raclée à celui qui vient nous enquiquiner chaque année, les petites retrouvailles entre Smith-Schuster et Burfict notamment. Donc ça promet à ce niveau-là, mais j'y vais clairement avec les Steelers.
Les Steelers aussi. Seahawks 9 victoires, 6 défaites, Cardinals 3-12. Bon, les Cardinals qui voguent quand même difficilement vers la fin de la saison face à des Seahawks qui sont chauds bouillants, qui jouent à domicile, qui ont un gros jeu au sol, une bonne défense et un Russell Wilson qui est plutôt chaud. Ça semble compliqué pour Josh Rosen.
Alors, petit point mystique. Petite bête noire, les Cardinals à Seattle ces dernières années. Après, c'est sûr que tu l'as dit d'un point de vue dynamique, ça va quand même être compliqué pour Arizona de tenir la distance. Et je te rejoins, j'y vais avec Seattle.
Et puis le coup d'envoi dans la nuit de dimanche à lundi, pardon, à 2h20. Donc c'est le Sunday Night Football. L'affiche, on l'a dit, c'est Titans, Colts. Ils sont tous les deux à 9 victoires, 6 défaites. Le vainqueur va en playoff, à part s'ils font match nul. Et là, et que les Steelers gagnent, ils laissent les Steelers aller en playoff. Du coup, j'ai un doute, s'ils font match nul et que les Steelers perdent. C'est
je pense
les Colts qui sont devant en ce moment, je crois.
Bien sûr, je l'ai pas préparé.
Mais alors, c'est juste. Alors, tu vois, je les avais tous en tête, mais alors le match nul, celui-là, je vais regarder. Mais
je pense que c'est les Colts. Ils ont un meilleur bilan de conférence.
Ils ont gagné le match aller en plus. Donc en opposition directe,
ils sont devant. Oui, je pense que je dirais que c'est les Colts.
C'est aussi simple que ça, je crois. Donc, c'est les Colts. Voilà. Vous avez toutes les possibilités. Donc, on avait dit Colts tous les deux.
On a dit Colts tous les deux.
Et bien, Colts tous les deux. C'est l'heure de passer aux meilleures cotes. Les meilleures cotes de la semaine, c'est parti. Grégory, je te laisse commencer.
Bon, alors du coup, t'as un peu cassé mon effet d'annonce, mais j'avais mis les Cowboys vainqueurs sur le terrain des Giants à 2,80. En effet, il y a cette interrogation concernant les joueurs présents ou pas du côté du MetLife Stadium, et ça conditionnera beaucoup de choses.
2,85, elle a même monté.
Ah pardon, oui, c'est moi qui dis une bêtise d'ailleurs, parce qu'il me semble que c'était déjà à 2,85. Donc,
non mais c'est une super cote pour des Cowboys qui sur le papier sont quand même au-dessus.
C'est une super cote, je le disais, ils ont une défense qui malgré tout peut freiner cette équipe des Giants.
S'ils jouent à fond.
Qui est capable de montrer de bonnes et de moins bonnes choses en cette fin de saison. Ils sont capables d'enquiquiner les Colts, les Bears et d'être beaucoup moins transcendants par exemple contre les Titans.
Clairement, s'ils font jouer tout le monde et qu'ils jouent à fond,
avec les titulaires, pour moi, ils gagnent. Voilà. S'ils font largement tourner, il y a quand même un espoir, mais c'est sûr que la cote de 2,85, elle sera beaucoup plus risquée.
Bears à 2,60 pour moi, je l'ai dit, ils jouent les Vikings. J'ai pronostiqué les Vikings, mais à 2,60 les Bears, c'est quand même une très bonne cote pour les Bears qui sont à 11 victoires cette saison, qui ont une très grosse défense, qui peuvent stopper, voilà, avec Mitchell Trubisky qui a réussi quelque chose dans certains matchs. Donc Bears 2,60, pour moi, ça se joue, c'est ma deuxième. Et puis dans la troisième cote, la cote bonus, c'est les Dolphins qui sont à 2,30 quand même contre les Bills. On l'a dit, ils sont plutôt homogènes et ils vont tenter de se
leur coach. C'est un peu risqué en ce moment. Hein.
C'est un peu risqué en ce moment, mais ils sont quand même plus complets sur l'ensemble que les Bills. Le combiné, ça fait 10 euros misés, 170,43 euros de gains potentiels. Donc, c'est un beau combiné quand même. Cowboys, Bears et Dolphins, c'est chez Unibet, évidemment. Le YOLO, on garde évidemment les mêmes. Dallas, Chicago, Miami. Et puis, on en rajoute 3. C'est Camille Sarabène qui nous a fait la sélection avec les Titans, les Falcons, pardon, et les Browns. Alors, il y a YOLO sur les Falcons. T'as parié contre ? C'était contre les Buccaneers.
Oui, mais ça peut passer. Franchement, sur ce match-là...
Les Titans, ça peut passer aussi. Et les Browns, moi, j'ai parié sur eux. Donc c'est plutôt pas mal. Donc, le YOLO, Dallas, Chicago, Miami, Tennessee, Atlanta et Cleveland, ça fait 10 euros misé, 2108,40 euros. Pas mal, celui-là. C'est un beau YOLO.
Ça peut se tenter.
Quand on monte au-dessus des 2000, là, ça commence à être du YOLO de compète. Hein. Donc, Dallas, Chicago, Miami, Tennessee, Atlanta, Cleveland, individuellement, ils sont pas fous hein, les uns les autres. Donc,
voilà. Non, et puis tu le disais, il y a beaucoup de...
Si tout passe.
Enfin, on a bien vu le week-end dernier que, par exemple, il pouvait y avoir quelques petites surprises, parce que les équipes accrocheuses qui voilà, reconditionnaient un petit peu le sort d'un match. Donc là, c'est sûr que ça peut aller dans différentes directions.
Et bah, c'est comme ça que se termine l'épisode 275. Mon cher Grégory, merci beaucoup.
Toujours un plaisir.
Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche dans le fauteuil, le 17e fauteuil de la saison, semaine 17. Et puis mardi prochain pour le débrief, évidemment. C'était présenté par Unibet, évidemment, ce jeudi, comme tous les jeudis. On les remercie pour votre détour pour les paris en ligne. N'hésitez pas à passer par les liens qui sont sur le site. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. On se retrouve donc dimanche à 18h. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur iTunes, sur SoundCloud, sur YouTube, à vous abonner à toutes les chaînes. On est sur Spotify, tout ça. On vous remercie beaucoup. Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu. Les réseaux sociaux, c'est @YellowRadioSa, @CamilleSarabène, @AlainMatei. C'est pour les persos. On vous rappelle évidemment le site touchdownactu.com. Si vous voulez taper plus vite, tdactu.com, ça va plus vite sur le téléphone. On vous remercie beaucoup. Merci à Camille Sarabène à la technique. On vous souhaite de très bonnes fêtes à tous et à mardi. Ciao, ciao.
Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vocal.